une création.
Blast.
Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires.
Il se passe quoi ? Il se passe quoi ?
Il se passe quoi à Toul ? Épisode 5. Bijard, une mémoire qui torture. Une plongée sonore d'Alexandre Hérault et Vincent Deck dans la ville natale du général Bijard. À Toul, une municipalité de gauche s'apprête à ériger dans l'espace public une statue du général, le général Bijard, dont l'action lors de la guerre d'Algérie reste liée à la pratique de la torture.
À une période où tout fout le camp, ça fait plaisir de voir des gens encore comme vous.
Bijard, c'était d'abord un style. « Je suis le dernier des cons, glorieux », aimait-il à répéter. Entré dans l'armée à l'âge de 20 ans, il gravira tous les échelons. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il se fait connaître en Indochine. Parachuté en plein combat de Dien Bien Phu, le lieutenant-colonel devient l'un des héros de la bataille. Nous sommes en 1954. L'armée française se laisse enfermer dans une cuvette. C'est la défaite pour ses paras. En ce 14 juillet 1956, le colonel Bijard reçoit de René Coty, président de la République, la Légion d'honneur. L'homme est déjà sur le front algérien. Sous les ordres du général Massu, il prend part à la bataille d'Alger. La bataille d'Alger est gagnée par Bijard et ses hommes. Mais à quel prix ?
J'ai pas dit que ça n'a pas existé. Ça, tout le monde le dit qu'il y a eu la GGN. Hein ?
On pouvait pas faire autrement ?
Oh non, écoutez, je coupe là-dessus. Ne m'emmerdez pas avec ça. Hein. Non. Non, non, ça suffit. On en parle toute la journée, il y en a marre. Hein, Massu a reçu les ordres, il était général, il a fait ce qu'il devait faire. Et Bijard est un lieutenant-colonel, au dehors de machin, et qui travaille le plus proprement possible.
Soldat le plus décoré de France, il est nommé secrétaire d'État à la Défense par le président Giscard d'Estaing. Puis il est élu député centriste de Meurthe-et-Moselle.
Jamais peut-être au cours de son histoire, la cathédrale de Toul n'avait accueilli autant de personnalités.
Le dernier soldat emblématique de notre histoire militaire.
Le 18 juin 2010, France 2 suit l'enterrement du général Bijard à Toul, dont les cendres seront ensuite ni transférées aux Invalides suite à un large mouvement de protestation nationale, ni à Dien Bien Phu, comme il l'aurait souhaité, suite au refus du gouvernement vietnamien, mais in fine, deux ans après, à Fréjus, au mémorial des guerres d'Indochine. 14 ans après sa disparition, la saga continue et nous sommes à notre tour, dans sa ville natale de Toul, à 35 km à l'ouest de Nancy, et nous sommes là. Pour suivre le combat du collectif Histoire et Mémoire dans le respect des droits humains, un collectif fondé en février 2023 pour s'opposer à l'érection d'une statue de l'officier parachutiste Bijard dans l'espace public de cette ville. Ce soir, le collectif organise une conférence débat autour de la mémoire contestée de Bijard.
Monsieur Simonin, Je laisse la clé de l'hôtel dans vos mains. J'ai l'Est républicain. Je ne vois pas là, aujourd'hui, l'annonce de la conférence de ce soir.
Bah écoutez, je viens d'en entendre parler à l'instant.
Donc on vous apprend qu'il y a en ce moment un débat qui est en train de se faire autour de l'arrivée ou pas de la statue du général Bijard qui... comme on le sait, appartient à cette ville. Il y est né, il y est retourné, il y est mort, donc. Et certains mettent en cause cette initiative pourtant votée par le conseil municipal. Et je l'apprends à l'instant, vous êtes le taulier de l'Hôtel de l'Europe, mais vous êtes aussi conseiller municipal.
Oui, donc effectivement, moi je suis au courant de cette affaire, puisque moi j'ai voté pour, personnellement, la mise en place de la statue du général Bijard, parce que effectivement, c'est un Toulois, ancien ministre, militaire, secrétaire d'État, et je pense qu'elle a toute sa place à Toul. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer tous ses amis de bataille, si on peut dire, à l'hôtel, lorsqu'ils ont fêté ses 90 ans. Et là j'ai compris une certaine chose, c'est qu'ils m'ont dit clairement... Il a mis les mains dans la merde, comme nous. Alors, bien, pas bien, je ne sais pas, mais il tient son respect, de là, en tout cas, de ces hommes du rang.
Et la mémoire ?
ce sont avant tout les politiques qui l'ont envoyé là-bas et que peut-être qu'il avait besoin de ça pour défendre nos intérêts. Je ne sais pas, je ne peux pas juger, j'y étais pas.
Moi, je suis touloise et j'y suis très attachée, plus à ma cathédrale qu'au général Bujard, toutefois.
Sylvie Prévost, professeure de français, fondatrice du collectif Histoire et Mémoire dans le respect des droits humains. Quand vous dites que vous êtes touloise, Sylvie Prévost, ça veut dire que cette figure du général, eh bien vous aussi, vous avez buté dessus obligatoirement.
Obligatoirement, dans la bibliothèque de mes parents, il y a 3 ouvrages autobiographiques du général Bijard. Quand mon père avait vu le général, il était content de nous dire « Ah, j'ai croisé le général aujourd'hui ». C'est vraiment un nom qui hante la ville et une présence très, 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 très forte.
Mais qui est restée une présence qu'on évoque aujourd'hui, plus de 10 ans après sa disparition, comme un homme débonnaire, quelqu'un de profondément attachant, charismatique aussi.
Je pense qu'effectivement, il y a une image qui s'est construite autour du général. C'était un militaire, tout est une ville militaire. Il faisait partie de ces figures militaires importantes dans l'histoire de la ville, hein, qui était une grande ville de caserne. Hein. Les militaires étaient partout encore dans les années 70. Cette figure, elle incarnait, alors si je répète un peu ce que je pouvais entendre autour de moi, une sorte de l'homme fort, quoi, hein, l'homme qui ne s'en laisse pas compter, le meneur d'hommes. Mais les cours d'histoire m'ont appris autre chose sur ce qu'avait été ce meneur d'hommes et sur les guerres qu'il avait menées au nom de la France.
Alors, on va y venir, à ce cours d'histoire qu'il faut refaire comme si la mémoire dérapait tout le temps quand il s'agit du post-colonialisme et de cette mémoire un peu noire, de cette plaie vive qui est encore la guerre d'Algérie, puisque c'est de ça dont il s'agit. Quand cette histoire, qu'aujourd'hui on apprend à Toul, puisqu'il y a un comité qui s'est levé ici d'habitants résolument opposés à l'érection de cette statue du général Bijard. Quand cela a-t-il commencé ?
Il y a eu des premiers bruits concernant une statue que proposait la Fondation Bijard à la ville de Toul. C'était avant le Covid, avant 2020. Et puis un jour... Plutôt par voie de presse, si mes souvenirs sont exacts, on apprend qu'un vote du conseil municipal eh bien, consiste à dire que la ville accepte la statue, s'engage à l'installer dans l'espace public. Et c'est là que quand même quelques personnes se disent qu'il n'est pas possible de laisser cette glorification de ce général dans l'espace public, avec cette statue qui le représente vraiment en para. C'est-à-dire, c'est vraiment le militaire des guerres d'indépendance. Ce général, il a habité Toul, c'est quelqu'un qui est né à Toul, mais c'est un général extrêmement décoré, je crois l'un des plus décorés de l'armée française.
Et les 4 étoiles.
4 étoiles. Et les historiens de renommée nationale et internationale, des spécialistes des guerres coloniales, des guerres d'indépendance, ont pointé du doigt le rôle de Bijard dans la guerre d'Algérie, ont soulevé la question de la torture. Et il est temps maintenant de regarder cette histoire-là de façon plus lucide, mais je pense aussi qu'il est parfois douloureux dans tous les camps de regarder le passé en face.
Alors dans ce restaurant où on vient de déjeuner, ici dans cette ville de Toul, et bien ce soir c'est évidemment la conférence qui commence à faire parler un peu d'elle, et puis spontanément les discussions s'engagent. Vous, à côté, vous avez dit « Tiens, Bijard, il ne faut pas en parler à mon père ».
Oui, c'est un sujet tabou.
Tabou pourquoi ?
Bah, par rapport aux massacres qui ont eu lieu et les ordres qu'on leur donnait. Donc voilà, sujet tabou. Alors ce qui aide beaucoup maintenant, 84 ans, c'est qu'il répond plus facilement aux petits-enfants.
Donc il finit par parler.
Ouais, des petites bribes, hein. Mais faut pas aller trop loin.
Et de voir aujourd'hui cette conférence qui a lieu ce soir pour s'opposer peut-être à, ou tenter, hein, puisque la chose est votée par le conseil municipal, à ce que cette statue qu'il représente en armes, le général Bijard, triomphant, ça, vous regardez de quel œil ?
Alors moi, personnellement, je suis contre, enfin, pas Bijard.
Je me retourne vers Isabelle, les deux Isabelles qui font partie du collectif.
Nous, Bijard, on l'a subi toute notre vie, en fait, cette image glorieuse, et tout en sachant qu'autour de nous, de la génération de nos parents, il y avait plein de gens qui avaient souffert de cette guerre. Moi, dans mon village, j'ai vu des gens qui étaient alcooliques, qui avaient des soucis de violence familiale, etc. Et quand on parlait d'eux, on disait « Ah oui, mais il a fait la guerre d'Algérie ». Parce que les gens savaient qu'il y avait des traumatismes qui restaient, quoi. Sans en dire plus, les gens racontaient pas plus ce qu'ils avaient vécu.
Isabelle ?
Je sais pas si beaucoup de gens ont entendu parler de l'appel du 4 mars, qui demande à l'État français, qui demande à la République de reconnaître sa responsabilité dans les guerres coloniales. Donc on est dans une période de l'histoire où, au contraire, on essaie de mettre les choses à plat, que chacun reconnaisse ses responsabilités. Et là, on se retrouve dans une municipalité qui va ériger la statue d'un militaire, dont on sait qu'il a fait quand même, alors je sais pas si on peut dire la promotion, mais en tout cas, il a érigé en système la torture pour arriver à ses fins. Et c'est complètement contraire à ce qu'on veut pour notre ville, quoi.
Qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on fait alors ?
Alors, avant nous, il y a quelqu'un qui a quand même réagi. C'est un ancien combattant de la guerre d'Algérie, un appelé, qui s'appelle Monsieur Philippe Champouillon. C'est lui le premier qui a engagé quelque chose. Il a fait des lettres...
Un certain nombre d'élus du Toulois, au secrétariat aux anciens combattants.
Lui s'est dit, on ne peut pas mettre la statue d'un tortionnaire, parce que c'est comme ça qu'il l'a désigné dès le départ, on ne peut pas mettre la statue d'un tortionnaire en face ou à côté d'un monument aux morts. Et quand on a pris connaissance de cette pétition, du coup c'est là qu'est née l'idée de créer un collectif. Et le collectif a dit, mais il faut carrément que cette statue ne figure pas dans l'espace public. Et du coup, M. Champouillon a dit, mais oui, mais vous avez raison, il faut aller jusque-là. Et il nous a rejoints. Voilà.
Philippe Champouillon, c'est vous qui avez mis toute cette pagaille. Vous avez vu, comme on en parle, de cette statue du général Bijard.
Ça me fait grand plaisir. Et je remercie infiniment tout le collectif qui s'est mis en route. Et l'affaire a démarré.
Elle démarre parce que vous êtes appelé un jour en Algérie. Appelé du contingent, gradé, Philippe Champouillon, vous allez découvrir cette réalité qu'on appelle souvent la guerre intime. Et puis, pendant des années, après votre tour, vous n'allez pas parler. Jusqu'à ce jour, il y a peu, où vous découvrez que cette statue va être commandée et arriver sur cette place publique à Toul, à côté du monument aux morts, la statue du général Bijard.
Lorsque j'ai vu dans le journal de l'Est républicain du 18 novembre 2023, lorsque j'ai vu cette statue en militaire, ça m'a révolté.
Mais... Ceux qui vous écoutent, et peut-être même vos petits-enfants, doivent être intrigués, Philippe Champouillon, de vous voir aujourd'hui en parler, alors que vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent.
Non, j'en ai jamais parlé. Jamais, jamais.
Et aujourd'hui ?
Ben, pour l'instant, je ne l'ai encore dit pas beaucoup. Même à cette heure-ci. C'est la France qui a choisi de faire la guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, il n'y aurait pas eu la torture et un certain nombre de choses. La France nous a, je l'ai dit au maire, la France nous a volé nos 20 ans. Et cette guerre, elle me colle à la peau. On est nombreux à être comme ça. C'est les responsables de l'époque qui sont responsables, qui a eu la torture, qui a eu ça. Bijard n'est pas le seul, il est responsable, mais c'est la France qui est responsable. Moi, je pense qu'il faut que le président ait le courage de revoir la position. Il y a eu une amnistie, une loi d'amnistie. Voilà, je demande ce qu'il y ait une révision de la loi de l'amnistie. Je pense qu'il faut aller jusque-là.
La
L'affaire n'est pas que touloise, c'est bien une question nationale d'histoire, d'écriture de notre histoire. Il ne s'agit pas de simplement s'opposer comme ça, de manière arbitraire, à la décision d'un conseil municipal. Il s'agit vraiment de voir tout le message qu'on porte avec cette statue. Et ce message nous paraît vraiment catastrophique par rapport à toute une population de Toul qui est issue de l'immigration, qui est aussi le reflet de ce qu'a été l'histoire coloniale française, par rapport à notre jeunesse aussi. Est-ce que c'est cette figure-là que l'on veut vraiment héroïser à Toul aujourd'hui en 2024, alors qu'il y a eu la commission Stora qui a nationalement invité justement à cette nouvelle lecture de notre passé. Et dans l'enseignement, si on consulte les manuels scolaires, on voit quand même qu'il s'agit de reconnaître ce qu'a été notamment la torture au moment de la guerre d'Algérie et la responsabilité de la France. Donc vraiment, vouloir installer cette statue-là aujourd'hui me semble aller à rebours de ce que doit être l'analyse objective, mesurée de ce qu'a été l'histoire de la France, tout simplement.
On est nous-mêmes un peu touché par cela, car on est descendant de personnes originaires du Maghreb, donc, et d'Algérie plus justement. Donc ça nous touche à ce sujet-là.
Tu me dis ça alors qu'il y a ta maman qui est juste à côté de toi.
Oui, exactement, oui. Justement, ils sont originaires eux-mêmes, mes parents d'Algérie, donc c'est un coup de poignard qui est encore vif.
Nourri, préférant rester anonyme.
Les personnes qui ont vécu des tortures ou des choses assez compliquées sont encore de ce monde, pour certaines. Ou alors sont morts, mais en tout cas ont pu transmettre cette expérience. Et le fait de l'avoir, nous, en mémoire et de savoir ce qu'ont pu vivre nos ancêtres, c'est une... Moi, je qualifie ça de honteux, hein, le fait de pouvoir glorifier quelqu'un qui a pu faire ce genre de choses à nos ancêtres. Mon grand-père, côté maternel, qui, lui, s'est fait torturer à l'époque avec la GN, hein, électrique, hein, donc il en a parlé encore jusqu'à ces derniers jours. Donc malheureusement, les traumatismes de la guerre, même 40 ans, 50 ans, 60 ans après, les gens sont encore capables de nous dire « voilà ce qui s'est passé ». Alors je vais parler de façon crue et assez directe. Ça n'est pas normal que lorsque on voit de la cervelle humaine, de demander à quelqu'un de la manger. Ça n'est pas normal. De devoir juste imaginer qu'on puisse brancher des câbles électriques à des oreilles de quelqu'un qu'on a humidifié, qu'on a forcé à boire, pour pouvoir lui faire soutirer des informations qu'il n'a même pas, puisque torturer des gens qui ne sont même pas en contact avec des félagas ou autre chose, enfin, je trouve ça horrible. Mon père, à l'époque, qui était enfant, avoir tapé un enfant, ce qui m'horrifie, c'est le fait que cette statue puisse se faire. Parce que la statue est à l'effigie donc directement de l'officier Bijard, celui des années 50, donc celui qui torturait mes ancêtres, parce que bardé de médailles, donc ça veut dire que on glorifie bien la personne qui a torturé. Il y a eu quand même plusieurs présidents qui ont laissé entendre que les tortures avaient été reconnues par la France. Pourquoi dans ce cas-là on glorifie des gens qui ont pu amener jusqu'à la torture?
T'as l'impression de parler aussi un peu pour ta maman, pour ton père, là, aujourd'hui, où j'extrapole.
Disons qu'aujourd'hui, je suis la voix de ceux qui n'en ont plus. À force de se faire taper, on apprend à se taire. Et actuellement, dans le climat social, politique actuel, à force de faire taper, les gens qui sont peut-être minoritaires essayent de ne pas trop faire entendre parler d'eux, pour pas non plus remuer nous le côté dans la plaie ou essayer d'être mal vu. Donc forcément, on a tendance à laisser couler les choses, ce qui n'est pas mon cas. C'est bien pour ça que je prends la parole aujourd'hui.
Il est 18h16 et les gens commencent à arriver dans la salle des adjudications à l'intérieur de la cour de l'hôtel de ville où va se tenir la conférence. Sylvie, j'ai croisé tout à l'heure au micro Philippe Champoullion, par qui tout est arrivé d'une certaine manière. C'est toujours étonnant de voir à un moment donné le silence ne plus exister.
Oui, je crois qu'il y a une parole qui se libère, même pour des personnes qui sont des témoins entourés d'une famille, d'amis, et qui n'ont pas osé raconter, qui n'ont pas voulu se souvenir pendant très très longtemps. Et qui maintenant, bah, notamment comme pour lui, hein, à l'occasion de l'annonce de l'installation possible de cette statue, ont vu tous leurs souvenirs revenir, s'imposer à eux, et une nécessité vraiment profonde de prendre la parole, enfin, de raconter et de s'indigner de la façon dont certains voudraient écrire cette page-là de l'histoire. Et que de même que les archives sont ouvertes nationalement et que les historiens regardent les choses avec un œil neuf, bien dans les familles, il y a peut-être des choses à dire, des choses à se dire. Et il est urgent que la parole se libère. Et surtout, on a de la chance d'avoir encore des témoins, des gens qui ont vécu ce moment-là. Et il faut vraiment les écouter avant qu'ils ne soient plus là pour raconter.
En fait, tout devrait se poser une question.
Hélène Leclerc, de la Ligue des droits de l'homme de Moselle.
La ville de Toul devrait se demander qu'est-ce qu'elle donne comme signal quand elle installe comme ça une statue de 2,50 m de haut sur l'espace public à Toul. Alors, qu'est-ce qu'elle donne comme message à une époque où, dans la ville de Paris, on est en train de défaire les stèles de tout ce qui a trait à la colonisation. Par exemple, Bugeaud, les rues Bugeaud sont débaptisées à Paris en ce moment. Et tout ce qui a trait à l'histoire coloniale est en ce moment en train d'être débaptisé à Paris. Au moment où même le président Macron, il y a 2 ans, avait commencé à dire la responsabilité de l'État dans les tortures en Algérie. Bon, il n'est pas allé bien loin, mais disons qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. Et c'est à ce moment-là que la ville de Toul veut ériger une statue. Alors, pour la petite histoire, on va dire que cette statue, elle a été faite par un sculpteur qui est proche de Zemmour. Où est-ce qu'on trouve actuellement en France des stèles à Bijar? Eh bien, c'est à Carcassonne, par exemple. Or, Carcassonne, bon, on sait très bien que c'est une municipalité d'extrême droite. On sait très bien aussi qu'actuellement, sur les sites de la mouvance extrême droite, riposte laïque, pour ne pas le nommer, il y a eu cette semaine, en tout cas moi je l'ai vu cette semaine, quasiment un hommage à Bijar, à la ville de Toul, et où on dit que non, que cet homme n'a fait que son boulot. On ne dit même pas à riposte laïque qu'il n'a pas torturé. On dit qu'en fait, il a utilisé les méthodes qu'il fallait et qu'il n'a pas... Voilà. Donc, la ville de Toul, elle s'inscrit dans ce contexte-là. Et quand on entend le maire, qui est un maire socialiste quand même, quand on écoute le maire, il a parlé sur une radio locale, il dit « Ah ben non !» Par rapport à la torture en Algérie, on n'est pas sûr du tout, on n'est pas certain, les historiens ne sont pas tous d'accord. Alors j'aime autant vous dire que les historiens qui sont là, quand ils ont entendu ça, ils s'apprêtent à mettre les points sur les i au maire. Parce que s'il y a une chose sur laquelle il n'y a plus de contestation, c'est bien la torture en Algérie. Et s'il y a une chose où il n'y a pas de contestation du tout, c'est l'implication de Bijar dans... Alors, je ne dis pas qu'il a mis les mains à la pâte. Je dis en tout cas qu'il dirigeait une école de torture. Et ça, on le dira ce soir. Et ça, c'est pas, on ne l'invente pas, ça. Le maire ne peut pas avoir ce genre de propos révisionnistes.
Ça y est, ça va. Les gens sont là et ça va commencer. Quelques 150 personnes ont répondu présents pour écouter la conférence des deux historiens spécialistes de l'histoire coloniale et post-coloniale que sont Fabrice Risset-Putti et Alain Russiau.
Alors, j'ai lu et entendu que monsieur le maire de Toul avait avancé comme argument pour justifier l'érection de cette statue, que Marcel Bijar n'avait jamais été condamné. D'abord, je vous laisse estimer vous-même la faiblesse de l'argument. D'accord, c'est sous-entendu, c'était peut-être un criminel, mais il n'a pas été condamné. Mais surtout, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que les crimes commis par l'armée française durant la guerre d'Algérie ont été amnistiés. Il a été interdit dès le mois de mars 1962... 4 jours après les accords d'Évian, on a garanti l'impunité judiciaire aux auteurs de crimes commis en lien, comme on disait, avec les événements d'Algérie. Je vais, moi, vous présenter le contexte historique général de ce moment qui a fait beaucoup pour la gloire du général Bijard, de l'officier Bijard, excusez-moi, c'est-à-dire de cette fameuse séquence de la guerre d'Algérie qu'on a appelée la bataille d'Alger. En janvier 1957, le gouvernement de la 4e République de l'époque, hein, et alors que la guerre a commencé depuis 2 ans, donc en janvier 1957, le gouvernement de Guy Mollet, qui est socialiste, dans lequel se trouve notamment François Mitterrand comme ministre de la Justice à ce moment-là, décide de jeter littéralement sur Alger, sur son département, quasiment une dizaine de milliers de parachutistes. La décision, c'est de militariser une répression. Qu'est-ce qui décide le gouvernement français de donner donc carte blanche au général Massu qui commande les parachutistes à Alger? C'est pas, contrairement à ce qu'on raconte, la nécessité d'arrêter les poseurs de bombes. Ça, on le voit dans les archives très nettement, la police d'Alger était tout à fait capable de le faire. Ce qui déclenche cette décision, c'est l'annonce par le Front de Libération Nationale d'une grève anticoloniale, d'une grève d'une durée exceptionnelle de 8 jours, qui est destinée, pour lui, à démontrer que le FLN, contrairement à ce que raconte le gouvernement français, a un soutien important, massif, dans la population algérienne. Cette annonce de grève provoque, je l'ai constaté dans les archives de l'État français, une véritable panique. Parce que, à ce moment-là, la France est mise en accusation à l'ONU pour son action en Algérie et qu'il n'est pas possible pour le gouvernement français de laisser le FLN faire cette démonstration, en particulier de la ville vitrine de l'Algérie française qui est Alger à ce moment-là. Alors une grève, bien sûr, qu'on qualifie, pour justifier sa répression, d'insurrectionnelle, de terroriste, qu'elle n'était évidemment absolument pas. Alors, pour que cette militarisation soit possible, il faut un cadre légal. Le cadre légal, c'est la loi qu'on appelle la loi sur les pouvoirs spéciaux, qui donne le droit au gouvernement de donner tous les pouvoirs à l'armée s'il le juge nécessaire. Et donc, la 10e division parachutiste du général Massu, dont fait partie le 3e RPC dirigé par Bijard, reçoit l'autorisation d'arrêter, de détenir clandestinement, d'interroger sans témoin, sans recours, et d'enfermer dans des camps des gens qu'elle estime être suspects. Suspects de quoi ? De lien avec le FLN. Et on trouve un très, très grand nombre, une immense majorité de gens qu'on qualifie de propagandistes, de grévistes. Donc on est, la notion de suspect est étendue à volonté. Et ce sont, au cours de l'année 1957, des dizaines de milliers d'Algérois et d'Algéroises qui sont arrêtés. Il s'agit d'aller extirper d'une population qui est elle-même entièrement suspecte. Et donc on érige la recherche du renseignement en système. Il est établi, contrairement à ce que certains continuent à prétendre, il est établi que la torture en 1957 est une institution, mais une institution clandestine. Et c'est à ça qu'a participé, comme beaucoup d'autres, hein, mais à un grade élevé, Marcel Bijard. On pratiquait donc, l'interrogatoire se faisait sous la torture, quasi systématiquement. J'ajoute que quand on parle d'institution, il faut savoir que ces méthodes étaient enseignées aux officiers parachutiste dans une école qui était dirigée par Marcel Bijard. Je m'arrêterai là-dessus.
Il y a un acte de résistance, finalement, quand la Ligue des droits de l'homme vous demande, Fabrice Rissé-Putti, d'arriver et de faire cette conférence avec Alain Ruscio sur la torture en Algérie, sur la guerre d'Algérie, pour peut-être éviter que cette statue ne vienne encombrer l'espace public, selon beaucoup. Il y a comme un acte de résistance, c'était une évidence ?
Pour moi, il s'agit d'aller combattre des théories qui sont je vais le dire franchement, des théories négationnistes. Hein, quand on entend dans une radio récemment le maire de Toul affirmer qu'il y aurait un débat parmi les historiens pour savoir si la torture a existé ou pas, il s'agit véritablement d'un négationnisme.
Il y a quelque chose qui intrigue encore l'historien aujourd'hui, c'est de sonder à quel point cette guerre intime, comme on l'appelle, aujourd'hui ressurgit, et parfois des années et des années après, ces blessures sont encore ouvertes.
Oui, bah écoutez, la guerre d'Algérie en particulier a fait souffrir beaucoup de monde, hein, des souffrances que je ne conteste pas. Elle a fait souffrir au premier chef les Algériens, elle a fait souffrir beaucoup de pieds noirs qui ont quitté l'Algérie, elle a fait souffrir les harkis qui ont été les victimes aussi du colonialisme, elle a fait souffrir des appelés du contingent qui ont dû faire leur service militaire dans cette guerre contre un peuple. Toutes ces souffrances en elles-mêmes se valent, mais il s'agit ici de dépasser le stade du compassionnel pour avoir une vision historique, politique de ce qui s'est produit. Et là, il n'y a pas à tortiller. Hein.
Et pour l'instant, la salle des adjudications vous attend.
Merci.
Bien. Les faits de Bijar et la torture. Je reviens à la bataille d'Alger. En mars 1957, c'est-à-dire immédiatement après le premier passage de Bijar et de ses paras, le secrétaire d'État chargé des affaires étrangères, le socialiste Marcel Champeix, un proche de Guimelet, effectue une mission à Alger. Qui constate-t-il ? Un assainissement grâce à des méthodes tirées de l'arsenal de la Gestapo. C'est un ministre du gouvernement qui parle. Le garde des Sceaux, François Mitterrand, s'inquiète lui aussi dans une lettre à Guimelet. Trop de fuyards abattus après leur arrestation, trop de bruit circule sur les procédés employés. Et donc, le nom de Bijar est cité à plusieurs reprises par ses témoins. Non seulement Bijar a participé à cette forme de répression, mais il a même été cité en modèle. Nouvelle citation de Massu. « J'ai laissé faire », c'est Massu qui parle. « Et j'ai même cité en exemple les premiers résultats de Bijar. La technique des interrogateurs a été décrite. L'ouvrage a même été remarqué. » Au point qu'un jeune ministre de la Défense, à l'avenir prometteur, Jacques Chaban-Delmas, on est en 57, Jacques Chaban-Delmas donc, convoque Bijar et lui demande d'ouvrir une école de formation de la guerre psychologique. C'est donc Bijar qui non seulement a été un praticien, mais a été un théoricien.
Alors vous savez, l'utilité de la torture, hein, l'utilité de la torture. On nous dit, voilà, on a arrêté un suspect, on sait qu'il a placé une bombe qui est prête à exploser et à tuer des innocents. Et qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Là, on torture. Alors, c'est pas bien. Mais nous, on utilise des moyens humains. En d'autres termes, l'électricité et l'eau, qui étaient recommandées, la simulation de noyade et la gégène, dont on pouvait mourir, hein, mais qui laissaient peu de traces sur les corps. Jamais. Vous pouvez, encore une fois, c'est toujours pas un conseil, mais éplucher les mémoires de ces militaires. Jamais ils n'ont été capables de donner un seul exemple concret, précis, où la torture d'un suspect aurait servi à désamorcer une bombe prête à exploser. C'est pas vrai.
Voilà donc l'homme que la municipalité de Toul voudrait statuer. Je vous laisse imaginer l'effroi que vous pourriez ressentir devant ce géant de 2,50 m qui regarde vers l'horizon comme pour montrer un petit peu la bonne direction de l'humanité. Je vous remercie. Si les Bijardiens, c'est en quelque sorte, étaient restés tranquilles et avaient continué à le vénérer de leur côté, c'était tout à fait leur droit.
Alain Ruscio, historien.
Mais le fait qu'ils aient voulu faire une opération politique et de négationnisme historique...
C'est intéressant parce que vous dites Bijardien, comme s'il y avait des Bijardises, comme s'il avait construit finalement son propre objet de dévotion lui-même.
Il était atteint d'une certaine mégalomanie. On lui a tellement dit qu'il était, vous savez, on a employé à un certain moment l'expression du le premier para du monde, rien que ça. Et donc, peut-être, à un certain moment, l'a-t-il cru. Si on ne voit que l'aspect, avec les guillemets nécessaires, que l'aspect technique de ses engagements, il a été un soldat redoutable, il était un homme de terrain. Il a eu des activités dans le Djebel, des activités, disons, classique du militaire qui va au combat, qui a en face de lui d'autres militaires. Mais il a également été quelqu'un qui a été du côté le plus sombre de l'activité de l'armée française en Algérie, à savoir la torture, à savoir les éliminations physiques. Ce sont des choses, ce ne sont pas des accusations a posteriori faites par des historiens wokistes, comme on dit aujourd'hui. C'est une constatation qui a été faite de son vivant. Son nom a été prononcé aussi bien par ceux qui le critiquaient, comme par exemple M. Tedjane, qui était secrétaire général de la ville d'Alger, que par ceux qui l'ont encensé, comme le général Massu. Alors aujourd'hui, évidemment, ça se retourne contre les mémoires de Bijar, mais Massu a dit un certain nombre de choses pour présenter Bijar comme un exemple de ce qu'il fallait faire pour mater la rébellion algérienne, c'est-à-dire les pratiques les plus abominables, dont la torture.
Dont cette fameuse crevette qui porte son nom, la crevette Bijar. Il faut s'attarder un peu sur... Alors, on ne sait peut-être pas combien de gens ont vécu ce supplice suprême, mais c'est son legs.
Oui, alors, la crevette Bijar, ça consistait à prendre des personnes interrogées, donc torturées en l'occurrence, et à les éliminer physiquement. Soit parce que ces personnes avaient parlé et donné, hélas, leurs compagnons de lutte, les gens du FLN, soit parce qu'ils n'avaient pas parlé, ils étaient trop amochés. Et donc, l'aspect le plus sordide de cette histoire, c'est de savoir que les premières crevettes Bijar étaient des gens qui étaient encore vivants, précipités du haut d'un hélicoptère dans la Méditerranée, dans la baie d'Alger.
Après avoir vu... les pieds modelés dans une bassine.
Non, ça c'est la seconde étape. La première étape, ils n'avaient pas pensé à cet aspect-là, et certains corps ont été ramenés par la marée, par les vagues. Et puis après, ils mettaient les pieds de la personne torturée, encore vivante, j'ajoute, dans un bac de ciment qui faisait sécher, et les précipitaient au fond de la Méditerranée. Donc ça, ce sont des choses qui ont été prouvées, actées, donc je n'invente rien.
Et qu'on a retrouvé en Amérique latine, justement, pendant la dictature des généraux en Argentine.
Bijar a été considéré, Bijar et d'autres, hein, mais enfin, les méthodes de l'armée française en Algérie ont été montrées comme exemple, en particulier aux généraux fascistes argentins, après le coup d'État militaire. Donc voilà, toutes ces choses-là montrent que le mythe Bijar face à l'histoire doit être détruit, et nous sommes ici pour le faire.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apparenterait dans cette bonne ville de Toul, où il est né, où il a fini sa vie, un attachement un peu incompréhensible juste à une figure locale qui appartiendrait presque à une brochure de l'Office du tourisme prête à être publiée?
C'est une gloire locale, mais ça prouve aussi que la propagande qui a été très abondamment diffusée pendant la guerre d'Algérie et après encore, qui a transformer ces gens, ces militaires qui ont fait une guerre asymétrique du fort contre le faible en utilisant des moyens criminels. On les a héroïsés. Bijar s'est auto-héroïsé, mais voilà, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné au point qu'on les prend, je pense sincèrement, pour des héros, quoi, de vrais héros. Et donc ça, c'est difficile à déconstruire, à démonter, mais c'est absolument nécessaire.
Vous qui avez consacré toutes vos études et ce parcours d'historien à ces guerres coloniales et post-coloniales, est-ce qu'il n'y a pas, après avoir écrit un Le Pen et la torture, un Bijar et la torture qui sortirait peut-être de cette conférence?
Il y a un point commun entre Le Pen et Bijar. Bon, Le Pen n'a participé que 3 mois à la bataille d'Alger. Il est établi qu'il a torturé. Et le point commun avec Bijar, qui lui a une des responsabilités bien plus grandes puisqu'il a dirigé un régiment dont il est prouvé qu'il a torturé et exécuté sommairement un certain nombre de suspects.
Il est prouvé, mais il n'a jamais avoué.
Le point commun, c'est qu'il il l'a nié. Hein,
voilà, et
ils
oui,
l'ont nié
ça.
Tous les deux. Quand Le Monde, en 2000, a obtenu les remords du général Massu, qui a dit ben, « on aurait dû faire autrement voilà, », c'était l'ambiance de l'époque, disait-il. Bijar, quant à lui, il a dit « non, non, tout ça, c'est des mensonges, et attention, je peux encore mordre ».
Fabrice Rissapessy, il y a peut-être derrière cette érection de cette statue des visées électoralistes?
Il est évident qu'on est dans une période de montée de l'extrême droite qui va bien au-delà des rangs du Rassemblement national et qu'on est aussi dans une période où le déni de ce qu'a été le colonialisme et des crimes de l'armée française pendant les guerres coloniales a le vent en poupe dans toute cette mouvance-là, ce qui est particulièrement inquiétant. Et il serait vraiment nécessaire qu'un jour prochain, la République française dise solennellement que le colonialisme et les guerres qui ont été faites pour le maintenir ont violé les valeurs que la République prétend défendre, comme elle a reconnu que la responsabilité de Vichy dans la Shoah avait été un crime, comme elle a reconnu que l'esclavage avait été un crime contre l'humanité.
Vous avez vu qu'une voiture de police vient de prendre faction ici devant le lieu de la conférence, comme s'il y avait des menaces à attendre.
Oui, mais écoutez, c'est quelque chose qu'on a bien connu. Hein. Il y a de plus en plus, alors à Toul, j'en sais rien, mais à travers la France, des réunions de ce genre qui sont victimes d'agressions, de provocations. Et donc, voilà, c'est une donnée de la situation politique française actuelle, quoi.
C'est un passage obligé tous les matins. Ici, c'est l'Est républicain qu'on ouvre. Et le correspondant local, Didier Imbert, était là hier, Patrick Bretonou, et il nous a fait un compte-rendu assez circonstancié de la réunion d'hier soir. Vous y étiez, et vous étiez à quel titre ?
Alors moi, j'y étais au titre de responsable de la section du Parti communiste de Toul, et pas au titre de conseiller municipal, parce que je suis aussi conseiller municipal à Toul.
Est-ce qu'on peut ensemble alors revenir sur cette décision du conseil municipal ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était une décision aussi unanime que cela ?
Unanime, non, certainement pas. Parce que déjà, il y a eu un vote en 2018, hein, le mandat précédent, pour accepter le principe de cette statue. Déjà, il y avait des oppositions qui se sont manifestées plutôt par des abstentions, mais en tout cas, ce n'était pas l'unanimité, très loin de là, parce que ça a toujours posé problème, cette statue de Bijard, même si à l'époque, il n'y avait pas du tout de détails sur comment elle serait, à quel endroit, etc. Il y a eu un deuxième vote en 2023, donc dans le mandat actuel, qui a accepté pour la mairie la statue, mais encore une fois, sans aucun détail. La Fondation Bijard, elle aurait demandé à faire une statue qui représente Bijard en tenue militaire, mais peut-être d'apparat, comme il pouvait l'être parfois à Toul quand il était député ou secrétaire d'État. Ça aurait peut-être pu passer davantage. Mais là, clairement, ils ont fait le choix avec le sculpteur de le représenter comme un militaire qui représente les guerres coloniales, donc l'Indochine et l'Algérie, avec toutes les exactions qui sont derrière. Donc on peut quand même difficilement se dire que c'était un grand homme sans gratter un petit peu derrière cette façade que d'ailleurs Bijard a créée lui-même, quoi. C'est-à-dire sa propre légende, en quelque sorte. Mais en attendant, est-ce que c'était indispensable de lui élever une statue, surtout telle qu'elle est faite ? Ça ne va pas vraiment ajouter quelque chose ni au personnage, ni à l'image de la ville.
Étonnant de constater, 60 ans après les accords d'Évian, et même un peu plus, que cette cicatrice est toujours une plaie ouverte.
Oui, étonnant. Et puis en même temps, c'est vraiment notre histoire commune. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immigration, etc. Ben, ça fait partie de toute cette histoire. Un historien, je crois que c'est Ruscio qui a dit ça hier, que 85% des enfants algériens n'allaient pas à l'école. Voilà. Donc quand même, cette réalité, quand on dit les colonies ont apporté la civilisation, il y avait deux catégories de population. On pourrait dire presque un apartheid généralisé. Donc cette réalité coloniale, eh ben, ça fait partie de notre histoire, on doit l'affronter à partir de faits, de témoignages, de documents, ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'est réellement passé dans les colonies Indochine, Algérie en particulier, c'est que la politique de la France, c'était pas très reluisant pour les gens qui habitaient là, quoi.
On ne peut pas comprendre qu'une mairie de gauche ou divers gauches, elle accepte d'honorer ce genre de totem. C'est pas possible. Je trouve que c'est inacceptable qu'on puisse donner des arguments comme le maire en a donné, de dire qu'il y a autant d'historiens d'un côté que de l'autre qui prouvent que Bijard, il était un bon général et puis un bon soldat. Je trouve que ça, c'est grave.
Luc Ferretti, membre du collectif, coprésident du comité de défense de l'hôpital de Toul.
Actuellement, il ne faut pas avoir peur d'affirmer sa conviction à gauche. Et c'est ce qui manque dans cette ville. C'est qu'il veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas combattre des idéologies fascisantes si on n'a pas une moralité et un discours de gauche qui est clair et net. Et pour avoir un discours net et clair, on ne peut pas mettre au milieu de la ville une statue de Le Pen.
Eh bien, tu l'as dit, Luc, et tu as fourché. Bijard n'est peut-être pas Le Pen.
Oh, je crois que c'est des copains. Je veux dire, ils se sont retrouvés tous les deux compagnons d'armes sur le même uniforme pour casser de l'indigène, pour être poli. Voilà, je veux dire, après, la France blanche, c'est Le Pen, c'est Bijard. La France blanche, c'est encore l'extrême droite. Et, bon, voilà, à un moment donné, il faut qu'on se réveille ensemble.
Est-ce que c'est pas au sein, parce que certains le pensent et ne le disent pas, de l'armée aussi, qu'il va falloir réfléchir justement à la place d'une statue comme celle du général Bijard? Certains botteraient volontiers en touche en voulant la voir tout simplement à l'intérieur d'une caserne, après tout, ou de cette caserne où elle est et qu'elle y reste. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des échappatoires.
Alors, moi, je pense que voilà, l'armée est au service de la République et la République est au service du peuple. Alors après, pour en revenir à la statue de Bijard dans l'enclos d'une caserne, pour moi, quand on dit pas de statue dans un lieu public, la caserne, c'est la caserne de la République, c'est un lieu public. Et je ne vois pas pourquoi au sein de la République et au sein de l'armée, les militaires, eux, pourraient prétendre à vénérer un homme qui est contre les idéaux progressistes de la République, en tout cas comme moi je l'entends. À partir de là, pas de statue dans les casernes.
Émilien Martin Trifandier, votre fonction au sein de la mairie, c'est laquelle ?
Moi, je suis délégué à la participation citoyenne. Mon rôle, c'est de m'occuper du lien entre élus, administration et habitants sur des sujets où on a besoin de consensus, où on cherche en tout cas à le trouver.
Impossible de le trouver, semblerait-il, le consensus.
J'ai appris à intégrer qu'au niveau local, la perception que j'avais moi-même en tant que militant de gauche et convaincu du général Bijard était ici pas du tout conforme, c'est-à-dire qu'il y a des gens de gauche, et je pense à mon grand-père qui était un appelé, qui a toujours voté à gauche, qui sur ce sujet-là se retrouvent des farouches partisans de l'érection de cette statue. Pour le souvenir qu'il avait personnel de cette figure, l'homme qui avait protégé ses troupes, le militaire qui s'est fait tout seul, le grand député de Toul qui mine de rien était une fierté locale parce que c'était le plus grand médaillé de France. Ce que j'ai appris également dans ce débat-là, c'est que quand on a opposé à un collègue à moi qui est militaire cette affaire de la torture en Algérie, nous a répondu très poliment que de la part des organisations de gauche qui à l'époque avaient voté les pouvoirs spéciaux à Mitterrand, à Molé, à Mendès France pour donner mandat au général Bijard de torturer, c'était désigner la main plutôt que la tête. C'était un moyen pratique de dédouaner les responsabilités de la gauche au pouvoir en accusant la main, en l'occurrence l'armée, plutôt que la tête, qui était le gouvernement, et singulièrement François Mitterrand. Et maintenant, il faut faire avec, c'est-à-dire qu'on a une écrasante majorité des habitants et de leurs représentants qui sont pour. La statue sera érigée aux alentours du mois de juin. La question, c'est comment on fait en sorte de gérer les conséquences de cette érection et les éventuelles fractures qui peuvent en émerger et qu'on voit déjà poindre là. Donc ça, c'est ma mission. Maintenant, ça va être de réparer la cicatrice. Ça va prendre du temps.
Sacrée histoire, quand même. Qu'est-ce qui m'a foutu une pagaille pareille?
Qu'est-ce qui a foutu une pagaille pareille? C'est la mémoire de notre histoire, c'est notre incapacité à reconnaître nos torts, c'est notre incapacité à dialoguer correctement avec l'Algérie, c'est notre incapacité à prendre nos responsabilités politiques et à faire la séparation entre ce qui relève d'une exécution militaire et d'une responsabilité institutionnelle. Et le problème, c'est le racisme d'État. Je pense que ça doit être le mot de la fin qui n'a pas été assumé pendant la guerre d'Algérie, qui était la responsabilité de la gauche et qui aujourd'hui en paye le prix, quoi. Dans une municipalité d'ailleurs de gauche. Hein.
Une mémoire qui torture. Fin du cinquième épisode de Pagaille, un podcast original de Blast. Une enquête d'Alexandre Hérault, réalisée par Vincent Deck. Merci pour leur précieuse participation aux historiens invités Fabrice Risset-Putti, auteur entre autres de Le Pen et la torture aux éditions du Passager clandestin, et Alain Ruscio, auteur de Nostalgérie aux éditions de La Découverte. Regret de ne pas avoir été reçu, malgré nos demandes, par Alde Arlemand, le maire de Toul, ni par le colonel Le Belair du 516e régiment du train de Toul, non plus par Anne-Marie Kennett,
la présidente de la Fondation Marcel Bijard, sous l'égide de la Fondation de France, qui a commandé cette statue offerte à la ville de Toul. Son jardin reste une option possible, voulue par certains membres du collectif, pour accueillir cette statue. Un collectif que vous pouvez soutenir en signant la pétition sur le site change.org, intitulée « Pas de statue de Marcel Bijard dans l'espace public ». Pagaille est un podcast original produit par Blast que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple et Google Podcast, ainsi que sur l'onglet podcast de notre chaîne YouTube Blast, le souffle de l'info. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à Blast si vous souhaitez que l'aventure audio-digitale continue.
Une création
Blast.